Poids nus. Cette semaine, Élise Gruau rencontre Yannick Lahens. Ce soir, Haïti, microcosme du monde.
Bonsoir Yannick Lahens.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir pour ce troisième entretien.
C'est un plaisir.
Donc on se rencontre à Paris. Hier, nous avons évoqué les temps de vos études à Paris, en France, et toutes les rencontres que vous y avez faites, jusqu'à votre décision de rentrer en Haïti avec votre mari rencontré en France, à Haïti, où vous devenez enseignante. Vous rentrez en Haïti en 1977 et vous devenez enseignante à l'école normale. Et vous menez aussi une action en faveur d'une politique éducative nouvelle, notamment pour l'introduction du créole dans les écoles primaires.
Voilà, une réforme un peu de tous les enseignements d'ailleurs, et puis l'introduction du créole comme langue d'enseignement et objet d'enseignement aussi.
Ce combat, il est difficile à mener, il y a beaucoup de résistance.
Énormément de résistance.
Comment on peut se replacer dans cette lutte?
En fait, c'est un peu le même combat que de vouloir danser les danses haïtiennes en spectacle. Ça met du temps à ce que ça soit possible et que ça devienne maintenant une chose courante. Le créole, c'est pareil. C'est une langue populaire, on imagine que c'est une langue qui n'a pas toutes les capacités d'autres langues. Et c'est un combat à mener. À mener jusqu'à présent. Aujourd'hui, il y a une académie de la langue créole en Haïti, ce qui quand même arrange les choses. Il y a des auteurs qui publient en créole, qui ont commencé comme Franck Etienne. Enfin, Franck Etienne a pris le relais de ce qui se faisait depuis les années 50 avec Félix Maurice Auleroy. Et puis, il y a Georges Castra. Alors, il faut dire que je deviens très proche de Georges Castra au moment où on lance la revue Chemin critique, qui est lancé par Laennec Urbon, Bérard Sénatus, qui est un philosophe, Laennec est anthropologue, Georges Castra est poète. Enfin, nous sommes quelques-uns. C'est une initiative de Laennec Urbon, anthropologue, et je crois que c'est un grand moment de la pensée haïtiano-caribéenne.
La revue Chemin critique.
Ah oui, pour moi, ça a été un moment très, très, très fort dans ma réflexion sur beaucoup de choses. Sur la littérature avec Georges Castra, sur la manière de voir Haïti. Parce que c'est l'époque où Gérard Barthélemy, qui est anthropologue, Jean Casimir, il vient avec l'idée de la coupure créole-bossale à la société haïtienne. Donc Jean...
De quoi s'agit-il?
Alors la population créole, c'est la population qui, au lendemain de l'indépendance, prend en main le pouvoir politique, économique. Ce sont en général des enfants d'esclaves et de colons. Et ce sont aussi des officiers de l'ancienne armée de Napoléon. Donc, ils reprennent à leur compte, enfin, le legs colonial, si je peux dire. La langue créole, la religion catholique, le patrimoine de leurs parents, plus ou moins, et le code Napoléon. Et ça, c'est une minorité. Elle est créole. Mais il faut vous rappeler ce que j'ai dit la dernière fois. La grande majorité des Bossals, ce sont des esclaves et des Noirs franchement arrivés d'Afrique. Et qui rejettent le système de la plantation.
On a une distinction très forte entre le groupe créole et le groupe Bossal, qui est encore
c'est comme si deux
très liés à l'Afrique. À peine arrivé.
Deux cultures qui sont en train de s'implanter dans cette île de 27 700 km² et qui fait parler d'elle plus qu'un continent. Donc, les Bossal réorganisent cette vie en communauté, le vaudou, la langue créole et une logique du partage, du sacré, etc., liée au vaudou. Et la société créole, qui est dominante, elle reproduit un peu le modèle occidental. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'évolution d'Haïti, on ne comprend pas les problèmes d'Haïti, on ne comprend pas en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les soubresauts qu'on a, c'est que la population Bossal demande sa légitimité. Elle demande d'exister. Donc, Jean Casimir vient avec ce concept, Jean-Casimir est haïtien, sociologue, et c'est l'anthropologue français Gérard Barthélemy, qui est le premier époux de Mimi Barthélemy, la conteuse. Lui va aller encore plus loin, il va amplifier dans un livre qu'il appelle « Le pays en dehors ». Et à partir de là, il y a toutes, je pourrais dire, beaucoup d'autres études qui vont suivre cette espèce de faille fondamentale qu'il découvre et qu'il met en lumière. Et autour de la revue aussi, il y a une réflexion qui se fait sur la littérature, l'indigénisme. Parallèlement à cette revue, il y a notre librairie, qui était une revue francophone, qui nous ont demandé pas mal de papiers sur la littérature haïtienne. Et la revue franco-haïtienne Conjonction aussi. Donc c'est une période extrêmement riche pour la réflexion.
Le pays en dehors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, nous raconter un peu?
C'est intéressant parce que quand vous êtes en Haïti, quelqu'un vous dit « Ah, je vais en dehors. » Donc je vais en dehors du pays créole, c'est-à-dire je vais en province, je vais dans la paysannerie, je vais dans les morts.
Hors de Port-au-Prince.
C'est le pays en dehors. Donc Gérard Barthélemy reprend cette expression du pays en dehors, en fait, qui est une expression interne, et il l'applique à tout Haïti, comme étant un pays en dehors de ce qu'on sait, c'est-à-dire en dehors du socialisme, en dehors du capitalisme, en dehors du modernisme. C'est un pays un peu à part, dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que son titre est intéressant. Le sous-titre, c'était « Essai sur la culture haïtienne », je crois. Voilà. Donc, le pays en dehors. Mais ce pays en dehors, il est de moins en moins en dehors aujourd'hui. Le pays en dehors, il revendique sa place. Les gens qui manifestent, ben non, ils disent « Et nous ? Qu'est-ce que vous faites de nous ? Nous
c'est
existons. »
Ce pays en dehors de l'échiquier politique.
Nous existons. Quand est-ce qu'on va pouvoir dire ce qu'on pense? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à l'école, à l'eau? Voilà.
Et vous, Yannick Lahens, vous avez mené donc cette réforme de l'enseignement qui a vu ses résultats aboutir au moment, à la chute du régime des Duvaliers. En fait, c'est 1987.
Mais la réforme a commencé avant. C'est-à-dire qu'il y avait la personnalité extraordinaire d'un homme qui s'appelait Joseph Bernard, qui a su imposer, au moment même de la dictature, il a dit non, on va faire ça. Et ça a commencé, et ça a continué. Jusqu'à aujourd'hui, le créole, dans la constitution de 1987, est langue officielle au même titre que le français. Tout passeport est rédigé dans les deux langues. Bien qu'il y a énormément d'efforts à faire encore sur le plan administratif, parce que quand quelqu'un va être jugé et qu'il ne connaît même pas la langue dans laquelle il est jugé, comment est-ce qu'on peut rendre la justice? Vous arrivez au tribunal, on vous parle en français, vous ne comprenez pas, même pas le dixième de ce qui est dit, et vous pouvez être accusé. Vous ne pouvez même pas vous défendre. Voilà. Il y a donc cette réforme importante, parce que réformer aussi la langue, c'est donner une chance à ceux qui la parlent. Et même quand on dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas scolarisés, il y a quand même eu une scolarisation de plus en plus importante de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes haïtiens exposés à l'école, exposés à la langue française qu'avant. Et c'est ce qui explique aussi qu'une relève, même en littérature, une belle relève peut exister. Quand je prends le cas de personnes comme Inema Jeudi, Mackenzie Orcel, James Noël, Bonnel Auguste, c'est bien la preuve que, malgré tout, il y a eu accès à l'école d'un certain nombre de personnes et d'une école qui n'a pas dévalorisé le créole. Et excusez-moi, j'allais ajouter, à la radio aujourd'hui, 90% des émissions sont en créole.
À l'époque, introduire le créole, c'est le faire cohabiter à côté du français?
Ah oui.
C'est-à-dire lui donner aussi ses lettres de noblesse?
Absolument, absolument. Et quand on le faisait à l'époque, on était tous taxés de communistes.
C'était qui, il, oui?
C'était tous ceux qui avaient pignon sur rue, tous ceux qui faisaient l'opinion, certains intellectuels, entre guillemets, la bourgeoisie de l'époque, tout ça, c'était, oh là là, c'est la catastrophe.
Comme si vous alliez quoi, dégrader...
Populariser, dégrader l'enseignement, qu'on allait dégrader l'élite haïtienne, enfin, tout ce qu'on veut.
Oui. Mais ça a ouvert les portes de l'école à des gens qui étaient que créolophones?
Absolument. Imaginez des gens qui ne sont que créolophones, parce que ma génération, celle de Lionel Trouillot, celle de Gary Victor, nous sommes nés dans des maisons où on a trouvé des livres, des parents qui parlaient français. Mais la nouvelle génération, c'est pas le cas. Sans cette réforme et cette valorisation du créole, je ne sais pas si on aurait eu cette génération, justement, qui est complètement désinhibée par rapport aux deux langues, et d'ailleurs qui écrivent dans les deux langues, et qui continue à faire vivre la littérature haïtienne. Et c'est autre chose quand on regarde cette génération, elle a un rapport au créole qui est beaucoup plus spontané. Et elle a envie d'écrire en français, elle écrit en français aussi.
Et est-ce que vous avez travaillé aussi au passage au littéraire du créole, au passage à l'écrit du créole?
Extrêmement important. Je crois que celui qui a fait l'une des premières réflexions, c'est Georges Castras. Quand il a publié son deuxième recueil, ça date de 75, je crois. Et dans la postface, il pose ce problème. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pose ce problème dans une grande ouverture. Parce qu'il dit qu'il faut continuer à écrire en français, en même temps qu'on écrit le créole. Et il dit écrire le créole, c'est pas simplement reprendre des proverbes et puis dire qu'on fait de la poésie créole. Il faut une littérarité de la langue créole. Ça consiste à travailler, à entrer dans la langue, à trouver. Et je crois que c'est le premier manifeste vraiment théorique qui soit aussi fort et qui aille aussi loin. L'un des derniers prix des champs, le prix des champs, c'est un prix littéraire haïtien. C'est une jeune femme qui a écrit un roman en créole. Donc ça y est, ça, je pense que c'est un chemin qui est en train de se faire.
Et à cette époque, Yannick Lins, vous, à la fois vous travaillez comme enseignante, vous œuvrez pour cette réforme de l'éducation. Il y a la revue Chemin Critique et vous-même, vous commencez à écrire et à envisager de publier. Vous avez une première... Votre premier essai, enfin
oui,
votre premier texte publié, c'est un essai.
Un essai. Alors, quand on fait le numéro, le rêve d'habiter, oulala, ça a été un numéro vraiment symbolique. Nous étions tous en train de nous demander qu'est-ce que habiter Haïti, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et qu'est-ce qu'habiter en général? Parce que là, comme il y avait des philosophes, il y avait des débats philosophiques sur qu'est-ce qu'habiter depuis Hegel en passant par... Ursel, habiter le monde moderne, enfin bref, habiter Haïti. Et moi j'avais fait un texte que j'ai appelé « Entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien ». Parce que je me suis rendu compte que l'écrivain haïtien a toujours été dans cette espèce de question « partir ou rester ». Qu'est-ce que je fais ? Depuis le départ. Parce que c'est une sorte de figure moderne. Parce que l'écrivain est une figure moderne qui apparaît, comme dit Barthes, au moment où la modernité découvre le prestige de l'individu. Or, nous sommes dans une société majoritairement traditionnelle où il n'y a pas d'auteur. Ce sont des textes collectifs, des poèmes de la tradition orale. Deuxièmement, l'utilisation du français dans une société créole, qui parle la langue créole plutôt. Ensuite, l'écrit dans une société extrêmement orale. Et donc, j'ai dit que l'exil, il commence aussi là. C'est pas seulement l'exil géographique ou l'exil politique. Il y a même un exil de ce qu'on est, comme personne. Et puis, donc j'écris ce texte. Mais je me suis inspirée d'une réflexion d'un autre auteur haïtien qui s'appelle Jean-Claude Fignolet, décédé depuis, qu'il appelle « Vœux de voyage et intentions romanesques ». Dans ce texte, il montre... que beaucoup d'auteurs haïtiens ont écrit à l'étranger depuis le 19e siècle et beaucoup de leurs personnages partent et reviennent avec une sorte de bonne parole pour changer. Et moi, je concluais dans mon essai que finalement, et je concluais moi-même, pour moi-même plutôt, que être en porte-à-faux comme je l'étais, c'est peut-être une bonne chose. Parce que le malaise, c'est ce qui permet d'écrire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout à fait à son aise n'écrit pas, ne peint pas, parce que le monde lui convient tel qu'il est. Pourquoi peindre alors que le monde est là? Mais c'est parce qu'on a une vision autre que ce qu'on voit. Pourquoi faire de la musique? Il y a les bruits du monde. On le fait parce qu'on veut. Et l'écriture, c'est la même chose. Parce qu'on veut raconter une histoire en plus de l'histoire, des mots qu'on entend autour de soi. Et je me dis, bon, finalement, le malaise est une bonne chose. Et c'est comme ça que je me suis jetée à l'eau. J'ai dit, ben, je vais ressortir mes textes. Voilà. Le porte-à-faux.
Ressortir vos textes, parce qu'il y en a qui existaient.
Qui étaient déjà, voilà.
Mais vous n'aviez pas eu encore
non.
Et le
puis,
geste
de je pense aussi, là, en dehors de l'expérience Chemin Critique, qui est une expérience qui m'a marquée, c'est la lecture de Marie Chauvet aussi.
Grande écrivaine haïtienne.
Ah, oui, waouh, ça a été un choc. Positif.
Et quand est-ce qu'elle écrivait Marie Chauvet?
Alors, le texte que j'ai beaucoup aimé, c'est, qui m'a vraiment frappé, c'est celui qui paraît en 1970 et qui est Amour, colère, folie, qui est une trilogie. Elle avait écrit d'autres textes avant, comme Fond des nègres, que j'ai beaucoup aimé, Fille d'Haïti, La danse sur le volcan qui se passe au moment de l'époque coloniale. Mais là, c'est un choc. Parce que Marie Chauvet écrit après Jacques Roumain, fondateur du Parti communiste haïtien, après Jacques-Stéphane Alexis, lui-même communiste et engagé. Ce sont des hommes qui dominent le paysage. Elle fait partie du groupe Haïti littéraire, mais on la mentionnait rarement, alors qu'elle était toujours là. Elle avait même appelé ces messieurs les araignées du soir parce qu'ils se réunissaient parfois chez elle le soir. Alors, elle fait entrer la complexité dans le roman haïtien. Après Jacques Roumain qui écrit Le très beau gouverneur de la Rosée, on a quand même les consignes du Parti communiste de l'époque. La paysannerie, c'est l'avant-garde de la Révolution. Donc on a Manuel, qui est un paysan parfait. Sa compagne est une paysanne parfaite. Ensuite, on a Jacques-Téphane Alexis qui vient avec compère Général Soleil, le prolétariat un peu l'avant-garde. Hilarion est un prolétaire parfait, sa compagne. Elle arrive et elle dit « Le monde est quand même un petit peu plus complexe que ça. » Et elle nous donne des personnages, mais complètement complexes, forts, avec leurs faiblesses, leur grandeur, enfin, quelque chose de... D'une part, deuxièmement, elle fait parler une femme. Et la femme parle de désir, d'inconscient. Oula! Quand paraît Amour, colère, folie, et c'est là que sa vie est intéressante, elle est mariée à quelqu'un de la bourgeoisie haïtienne.
Marie Chauvet. Oui.
Et les livres sont mis en veilleuse par la famille. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils achètent le stock chez Gallimard? Enfin, il y a des choses qui circulent. On ne le trouve pas. Elle dérange le pouvoir parce qu'elle critique le pouvoir en place, qui est le pouvoir de Duvalier. Elle dérange la bourgeoisie bien pensante parce qu'elle parle de femmes, d'inconscients, et de, tout, de désir de femmes, etc. Ça choque la famille. Et ensuite, quand même, le monde politique, parce qu'on ne peut pas la mettre dans une case. Elle ne dit pas ce que disent les hommes qui sont dans des partis. Donc finalement, elle dérange tout le monde. Et le silence autour de Marie Chauvet qui est construit, finalement, arrange beaucoup de gens. Et quatrièmement, ce qui est important, elle casse les codes traditionnels, formels du roman haïtien. Elle est dans le monologue intérieur, elle est dans le non-respect de la chronologie. Donc des textes éminemment modernes quant à leur forme. Donc vraiment, là encore, un point où elle est en avance. Et c'est vraiment à la chute de la dictature en 86 qu'on commence à faire circuler ces textes. Et que moi, je découvre Amour, colère, folie, je me dis waouh. Mais ce qui est important dans sa vie aussi, c'est qu'elle accepte de divorcer, elle, grande bourgeoise haïtienne, et de devenir femme de ménage aux États-Unis. Pour écrire. Et pour être fidèle à son écriture, ce qu'elle était.
Donc elle est votre aînée en littérature,
oui.
De beaucoup. Oui.
Ah oui, elle est morte en 78. Et bon, je pense qu'elle a inspiré beaucoup de gens. Hein, beaucoup de... Même des écrivains hommes, comme Jean-Claude Charles ou même Dany à Ferrière, me disent que bon, cette liberté de ton, c'est elle qui l'a apportée.
Et Yannick Lins, vous dites cette position en porte-à-faux. C'est celle que qui va vous permettre d'écrire. Et puis, il y a cette... Parce vous que disiez, les femmes écrivent dans l'œil du cyclone.
Oui, alors je parle des femmes haïtiennes, bien sûr. Parce que quand il y a un cyclone, on sait ce que c'est que les cyclones dans notre... L'œil, c'est l'endroit où c'est tranquille. L'œil du cyclone, c'est tranquille, on peut voir. Et à côté, il y a le bruit et la fureur. Les eaux, les orages, enfin tout. Et les femmes, quelque part, préservent un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui participent au bruit et la fureur. Ce que je veux dire, c'est que les femmes sont dans une position centrale, puisqu'elles sont les potomitans, de par l'histoire. Et en même temps, ce sont celles qui invitent à ce que on cesse un peu le bruit et la fureur. Par leur écriture, par leur expérience même, au quotidien. Et qui peut-être propose quelque chose pour aussi bien l'avenir du lieu que l'avenir de l'espèce. Parce qu'elles ne sont pas dans la bouille et la fureur. Moi, quand je regarde la place politique, la place économique des femmes en Haïti, leur place sociale, elles n'ont pas encore leur expression politique, leur représentation politique, pas encore.
Et à cette époque, vous avez toujours eu, Yannick Lins, une action de terrain en Haïti et puis des...
J'aime bien ça, oui.
Des voyages dans le pays pour à la rencontre des gens, pour observer beaucoup. Et nourrir vos...
Absolument, vos... beaucoup. Et aujourd'hui, il y a aussi énormément d'associations culturelles. C'est intéressant parce que c'est ce que j'appelle la beauté comme résistance. On trouve énormément d'associations, même dans les quartiers les plus improbables, où il y a une petite bibliothèque, où il y a des jeunes qui essaient de rassembler d'autres jeunes autour du livre, autour beaucoup de choses. Et pas seulement le livre, il y a des associations culturelles, c'est-à-dire pour les arts plastiques. Comme N'apprend la rire. Là encore, ou bien le ghetto biennale, qui est un quartier populaire où c'est créer une école de sculpture. Ils ont commencé à partir des pièces de récupération des voitures. En Pralaria, c'est du côté du Bel Air, c'est un autre quartier populaire. Donc, il y a toujours des événements. On ne peut pas passer une semaine sans être sollicité par un événement, soit littéraire, soit culturel. Donc oui. C'est-à-dire, je vois difficilement un écrivain haïtien vivant en Haïti et qui soit dans un tour d'ivoire. Je ne pense pas que ça existe. On est tout le temps sollicité. Je pense que ce n'est pas la reconnaissance simplement à l'extérieur qui fait de vous vraiment un écrivain, mais il faut être dans la proximité avec les jeunes qui n'arrêtent pas de... C'est comme si... Face au chaos, la beauté, c'est une forme de résistance. Le théâtre, il y a des festivals de jazz, il y a de plus en plus de petites formations de jazz. Donc il y a tout.
Il y a un grand festival de jazz aussi.
Oui, il y a un grand festival, et en même temps, tous les ans, mais en même temps, il y a de petites formations de jazz qui prennent naissance à partir de ça. Et même un festival de théâtre, maintenant, ils en sont presque à leur 15e édition, dans une ville où il n'y a pas une vraie salle de théâtre. Ça tient, les gens font des choses dans des lieux improbables. Et ils invitent des metteurs en scène espagnols, français, anglais, qui viennent. Il y a ce besoin de tenir parce qu'on sait que ça aussi c'est une forme de résistance contre tout. Le néant, peut-être le vide, peut-être le chaos politique, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant de plus en plus de jeunes dans des villes de province qui font des petites choses comme ça.
Et vous continuez d'arpenter le territoire à la recherche.
Moi, parce que, comme je leur dis, je ne peux pas les suivre. Je n'ai plus l'âge, mais on est tout le temps sollicité.
Et vous, Yannick Lins, à la publication de vos premières nouvelles, vous aviez une quarantaine d'années. Et vous avez publié d'abord en Haïti. Comment est-ce que vos textes ont été reçus et qu'est-ce que vous avez éprouvé, vous, à cette publication de ce travail que vous meniez déjà depuis un moment, de façon plus solitaire?
Ah ben, très bien, parce que moi, le public haïtien est pour moi très important, donc j'étais très contente que ça ait été bien reçu. Et c'est après, d'ailleurs, que mon premier roman est apparu en France, dans la maison du père. Alors, de loin, les gens ne visualisent pas exactement ce que c'est que Haïti. L'écrit, c'est quelque chose qui a permis à Haïti d'exister. Donc, il y a une longue tradition de l'écrit. Quand Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines commencent leur mouvement insurrectionnel, ils ne maîtrisent pas très bien le français. Mais comme ils voient que les envoyés de Napoléon ont des secrétaires, ils vont employer des secrétaires à qui ils dictent tout ce qu'ils font. Et ils envoient leurs textes un peu partout, aux États-Unis, dans plusieurs villes américaines, en France, en Allemagne. Donc ils ont compris le poids de l'écrit. Quand on est forme, de toute façon ça va rester, il y a quelque chose qui va rester. Donc ces textes sont allés un peu partout. C'est maintenant seulement que la recherche américaine, hélas pas assez la recherche française, commence à les exhumer. Et qu'on se rend compte du poids de l'écrit dans cette affaire. Ensuite, ça va être, pendant tout le 19e siècle, des gens qui vont écrire pour dire que la nation haïtienne existe. Ce sont nos premiers écrivains. Donc l'écrit, c'est une manière, même si c'est de la forme savante, mais c'est une manière de dire qu'on existe. Donc s'il y a une littérature haïtienne aussi vivante, c'est parce qu'il y a cette tradition depuis le 19e siècle. Et toujours, malgré les périodes difficiles, des maisons d'édition. Il y en a qui naissent, il y en a qui disparaissent. Aujourd'hui, il y en a 4. Et moi, j'étais une des premières, d'ailleurs, à demander à mes éditeurs français de garder les droits, que je voulais garder les droits pour Haïti. Parce qu'un livre publié en Haïti est 4 fois moins cher. Donc,
sinon, il sera inaccessible.
Donc, oui, il y a une édition haïtienne qui est bien vivante aussi.
Donc, vous commencez par des nouvelles, Tantrésia et les dieux. Mm-hmm.
Et puis ensuite, ça va être La petite corruption, pratiquement en même temps que dans La maison du père. Mm-hmm. Et La maison du père est publiée en France. À l'époque, c'est au Serpent à plumes. Mais tout de suite repris en Haïti, aux éditions Mémoire. Et je vais continuer comme ça. Tous mes livres sont repris en Haïti. Par des éditions haïtiennes.
Mmh. Bien, nous poursuivrons sur votre œuvre d'écrivain et de romancière, Yannick Lahens, demain. Merci beaucoup.
Merci.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruau avec Yannick Lahens. À voix nue, réalisation Assia Ralide, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.